9h43. On a tous observé depuis quelque temps cette passion, j'allais dire même cette folie, pour des vacances dans des espèces de vannes, comme on dit, aménagées. Dans le livre dont on va parler dans deux secondes, il y a des images avec des autobus, des vieux autobus scolaires transformés. Et bon, c'est sûr que c'est plus intense avec la pandémie parce qu'on est limité dans nos choix de vacances, mais c'était vrai avant, ça a commencé avant. Dominique Carpin est avec nous pour nous parler de son livre « Van Aventure », qui est le petit guide de la van life sans fil. Dominique, bonjour.
Salut, Paul.
Là, j'ai bien des questions pour toi pour avoir feuilleté ton bouquin. D'abord, ton intérêt pour ce mode de vacances ou de vie, là, ça dépend, ça a commencé quand?
Ça a commencé il y a 3 ans quand j'ai débuté les tournages de Van Aventure. Je connaissais le concept de la van life parce que c'est très, très présent sur les réseaux sociaux. Là, je voyais des photos idylliques de jeunes femmes étendues sur des couvertures mexicaines à l'arrière d'une van avec un panorama à faire rêver. Fait que je voyais ça passer puis je trouvais ça séduisant comme style de voyage. Puis c'est dans un salon de plein air, en fait, que je suis tombé sur un véhicule aménagé. Puis à ce moment-là, je travaillais sur un concept d'émission de plein air et pour moi, c'était le chaînon manquant là, pour faire Van Aventure. Fait que c'est tout récent. Là. Tu sais, je peux pas dire que je suis un pro de la van life. Là. C'est pour ça que le livre, je l'ai écrit avec l'aide d'un consultant. Puis j'ai fait beaucoup d'entrevues pour être certain là, de parler des vraies affaires. Mais c'est, comme tu l'as dit, c'est un mode de voyage qui a connu une explosion de popularité ces dernières années, mais particulièrement dans la dernière année avec les raisons qu'on connaît, là, la pandémie qui a amené les gens à redécouvrir le Québec puis à chercher des façons différentes de découvrir le Québec.
Mais je te le disais, feuilletant ton lit, ça m'a rappelé une certaine époque. C'est comme si c'était un retour à une... Ouais. Tu sais, la Westphalia, là. Déplacements, puis dans les années 70, bon, moins équipés, là, c'est sûr, là. Mais l'idée pareille de se déplacer puis de vivre dans le véhicule pendant des semaines puis des mois.
Ah, ben c'est pas nouveau, tu sais, rappelle-toi Jacques Poulin, Volkswagen Blues.
Ouais.
C'est pas récent, c'est ça, tu sais, le Woodstock, puis même quand je me suis intéressé à l'histoire de la vanne, puis tu réalises qu'on n'a rien inventé, là, tu sais, ça existait au siècle dernier, puis, mais c'est sûr que ça s'est cristallisé avec l'arrivée du premier Westphalia, puis là, on parle des années 50, ça a connu un engouement en Amérique dans les années 60, puis, tu sais, on se rappelle aussi de Elvis Graton qui lave sa belle vanne au son de Love Me Tender. Tu sais, je veux dire, ça a tout le temps fait partie de notre façon de voyager puis de prendre des vacances. Mais là, ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est absolument phénoménal. Il faut dire que aussi des nouveaux véhicules qui sont arrivés sur le marché, comme le Sprinter de Mercedes, le ProMaster de Dodge, le Ford Transit, c'est des vannes un peu plus spacieuses, plus faciles à aménager, qui offrent plus de confort aussi. Donc, c'est tout ça qui a contribué à la popularité de la van life.
Bon, là, on va regarder les aspects plus pratiques un peu. Il y a différents types de véhicules qui existent. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Qu'est-ce qui est important de savoir, là, les éléments de base, toi qui as vécu ça, là, avant de dire, ben, est-ce que j'achète, est-ce que je loue, quel type de véhicule j'ai besoin?
Ben, je pense que la première chose, c'est de louer. Le premier conseil que je peux donner, c'est... Parce que, tu sais, on parle de la van life, tu sais, il y a tout le temps le petit côté hippie, là, qui vient en tête quand on parle de ce type de véhicule-là, mais, tu sais, une van aménagée, là, les belles qu'on voit, là, sur les routes, c'est... Il n'y a rien en bas de 100 000, tu sais, il y en a jusqu'à 200 000 $. Là. Fait que c'est pas un petit investissement. Donc, l'erreur, ce serait d'acheter un véhicule déjà tout aménagé puis de réaliser après une semaine qu'on n'aime pas ça du tout. Là. Fait qu'il y a plein de compagnies au Québec qui louent des vannes ou il y a plein de particuliers qui louent leurs vannes. Fait que je pense que la meilleure chose, c'est de partir une fin de semaine, d'essayer de reproduire aussi ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on voyage seul? Est-ce qu'on voyage avec sa blonde? Est-ce qu'on voyage avec des enfants? Moi, je voyage avec mon chien. Fait que, tu sais, savoir en le testant, c'est quoi nos besoins? Est-ce que j'ai besoin d'une douche? Est-ce que j'ai besoin d'une toilette fermée? Est-ce que, tu sais, il y a un paquet de questions. Est-ce que je vais dormir dans des campings ou je vais aller camper près d'un lac tout seul dans le milieu du bois? Tu sais, Fait que c'est ces questions-là qu'il faut que tu te poses avant, ensuite, de faire un choix de modèle puis un choix d'équipement parce que il y a 1000 possibilités là, d'aménagement dans une van.
Toi qui t'es promené à travers le Québec, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits adaptés pour ce genre de... Parce qu'on comprend qu'il y a de grands espaces au Québec, mais en même temps, on ne peut pas s'installer n'importe où, n'importe comment. On a vu la Gaspésie l'été passé. Ouais. Là, t'sais. Est-ce qu'il y a vraiment des choix, des options pour les... quand on se déplace?
Là, il y en a moins, justement, à cause de ce qui s'est passé en Gaspésie. Là, les nomades professionnels, entre guillemets, là, qui font ça depuis des années, capotent là, parce qu'il y a beaucoup de leurs sites chéris qui maintenant sont barrés avec une chaîne ou des écriteaux là, qui indiquent que le camping autonome, le camping nomade n'est plus permis. Fait qu'il y en a moins. Je pense que là, on a comme étiré l'élastique au maximum. Là, ça va sans doute se replacer dans les prochaines années. Il faut aussi repenser à comment est-ce qu'on accueille ces propriétaires de vannes-là qui se font un peu un devoir ou tu sais, ça fait partie de l'esprit de la vanne neuve de ne pas aller sur les campings. Donc, où est-ce qu'on les accueille, les propriétaires de vannes? Puis c'est là où il y a eu des débordements en Gaspésie. C'est que les nouveaux qui arrivent connaissent pas le code d'éthique puis savent pas que ils peuvent pas se stationner n'importe où. Tu sais, je pense que la raison qui a amené ces débordements là, c'est que les gens se sont dit ben j'ai une vanne, j'ai des panneaux solaires, j'ai pas besoin d'électricité, je peux me parker n'importe où. Puis c'est pas vrai. Tu sais, il y a des règlements municipaux à respecter. Il y a le gros bon sens aussi à respecter. Fait que je pense que les prochaines années vont être importantes. Il va falloir qu'on trouve un équilibre entre cette arrivée massive de nouveaux vanlifers puis le fait que là, la réaction première des municipalités, c'est de se braquer puis de tout fermer. T'sais. Mais je pense pas que c'est la solution. Il va falloir comme qu'il y ait des discussions puis qu'on comprenne c'est quoi cette patente-là puis c'est quoi les besoins des vanlifers puis éventuellement arriver à un équilibre, là, comme on le voit plus aux États-Unis, même dans l'Ouest canadien, là, l'accueil des vanlifers se fait de manière beaucoup plus agréable qu'elle peut se faire ici. Là.
OK. Dans ton livre, tu nous présentes différents personnages, et j'emploie le mot « personnage ». Il y en a un que ouais. J'ai retenu, que j'aimerais que tu nous décrives, qui est ton Bob Marley des Îles-de-la-Madeleine, là, Denis Doyon.
Oui, Denis, écoute, je suis tombé sous le charme de ce gars-là que j'ai rencontré en tournage aux Îles-de-la-Madeleine. C'est un prof de kitesurf et lui représente bien l'image du bohème. Tu sais, il y a une vanne très rudimentaire, pas de toilette à part un seau dans lequel il fait ses besoins. Puis, mais en même temps, ce que j'aime de ce bonhomme-là, c'est qu'il revient à la base de c'est quoi la van life, tu sais, le bonheur de se stationner à des endroits magnifiques puis de passer un peu inaperçu. Puis il y a un côté aussi chez les van lifers marginal. Puis lui incarne bien ça. Tu sais, c'est ça. Il a l'air de Bob Marley, un mélange de Bob Marley puis de Brad Pitt. Puis lui part des mois chaque année. Au Texas, faire du kitesurf, il revient travailler un petit peu pour gagner des sous. Après ça, il repart aux Îles-de-la-Madeleine. C'est vraiment tout un personnage. Mais tu sais, il y en a plein des personnages comme ça dans la communauté de la van life. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'interpelle presque autant que les beaux coins du Québec où je suis allé. C'est les rencontres que je fais qui me font triper, là.
OK, puis là, tant qu'à être dans la galerie des personnages, tu as celui que tu présentes comme le godfather de la van life, le parrain, là. Julien Roussin-Côté, qui est-il? Présente-nous-le.
Julien Roussin-Côté, c'est probablement celui qui incarne le mieux la van life au Québec. Il y a un site, puis un magazine qui s'appelle Go Van. Il y a aussi une émission du côté de Uni.tv là, qui s'appelle La belle vie avec Go Van. Mais c'est un gars, c'est un entrepreneur qui un jour a décidé qu'il partait sur la route avec sa vanne, puis il gagne sa vie maintenant grâce au contrat qu'il trouve sur la route. Il est devenu un ambassadeur de plusieurs régions du Québec. Puis il incarne aussi une partie de cette communauté-là qui réussit à vivre sur la route. Puis ça, je trouve ça passionnant, des gens qui se sont réinventés, c'est le cas de le dire, puis qui maintenant, grâce à Internet, tu sais, tu as le Wi-Fi un peu partout, réussissent à travailler à partir de leur van. Donc, ils n'ont plus de domicile fixe. Ils vivent dans leur van, puis ils travaillent dans leur van, puis ils gagnent bien leur vie. Puis Julien, c'est un bon exemple de ça. Puis il est devenu un ambassadeur de la van life. Il est très impliqué aussi là, dans les trouver des solutions là, pour qu'on retrouve un équilibre là, entre les van lifers, puis les communautés, puis les municipalités au Québec. Fait que c'est quelqu'un qui est très, très important dans la communauté de la van life québécoise.
En tout cas, je ne connais pas ça, mais j'ai un de mes frères qui est dans ce mouvement-là. Notre collègue Paul Houd aussi est dans, je dirais, un pratiquant. Ouais. Mais ton livre est vraiment pratique parce que tu vas de je dirais, la notion de base, puis en même temps, tu montres jusqu'où on peut aller, là, si on veut rendre l'environnement plus moderne, plus, je veux dire, sophistiqué avec bien des options. C'est vrai que ça peut coûter cher, mais en même temps, ça peut aussi se faire à bas prix, là.
Ouais, ben c'est, tu sais, tu peux avoir une van. Tu sais, j'ai un ami là, qui est en train de monter une van ici, pas loin de chez nous. Puis, tu sais, il va s'en sortir autour de 25 000, 30 000. Là, fait que, tu sais, il y a cette possibilité-là. Tout comme, tu sais, la van que j'avais l'an dernier, j'avais un lit électrique, l'air climatisé, une douche, une toilette intérieure. Tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Là, c'était presque un. Dans le fond, tu sais, une van, c'est un mini VR là, quand tu y penses.
Et que dire des autobus scolaires, les vieux autobus, ben, ça, là, c'est quelque chose.
Non, on les appelle les schoolies dans le dans le milieu. Puis, tu sais, ça non plus, c'est pas nouveau. Là. Il y en avait plein dans les années 60,
des
familles qui vivaient dans des autobus. Puis, c'est vraiment trippant comme. Puis, c'est un espace qui est beaucoup plus grand qu'une van. Fait que, ouais.
Dominique, je t'arrête là-dessus. L'émission est finie. Merci beaucoup.
Ah, c'est le fun, Paul.
À bientôt. Salut. Dominique bye Arpin, bye. Van Aventure, petit guide de la Van Life sans filtre. Aux éditions du journal. C'est terminé. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne journée. On vous retrouve demain matin à compter de 5h30. Salut!